Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère et d'établir l'office et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment d'avoir choisi la radio francophone iranienne en ce vendredi soir 13 novembre 2020. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. L'ère de la pression maximale est révolue, a souligné le président iranien Hassan Rouhani. L'Iran annonce avoir arrêté le chef d'un groupuscule terroriste. Une installation pétrolière saoudienne a été visée au lendemain de l'avertissement du mouvement d'Ansar Allah et le Conseil de sécurité de l'ONU prolonge le mandat de sa mission en République centrafricaine. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Tous les signes annonciateurs dans le monde d'aujourd'hui le montrent. Des États-Unis à l'Europe, en passant par d'autres pays du monde, prouvent que la communauté internationale a saisi que la politique de pression maximale menée par Donald Trump ne fonctionne pas et qu'elle est désormais révolue, a souligné le président iranien Hassan Rouhani. Le président Rouhani a salué la résistance de la nation iranienne contre la guerre économique des États-Unis et a déclaré que le monde a saisi que la politique américaine de pression maximale avait échoué. Dans son discours lors de la cérémonie d'ouverture des projets nationaux sur le plan éducatif et médical, Hassan Rouhani a déclaré que la nation iranienne sera traversée l'ère des sanctions grâce à sa résistance et à la lumière des directives du guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei. Les remarques du président Rouhani faisaient allusion aux politiques contre-productives du président américain Donald Trump menées au cours des 4 années de son mandat largement critiqué dans le monde et à l'intérieur des États-Unis et à sa défaite lors de l'élection présidentielle américaine. L'Iran annonce avoir arrêté le chef d'un groupuscule terroriste. Le principal auteur de l'attaque terroriste sanglante du 22 septembre 2018 à Ahvaz, dans le sud de l'Iran, a été identifié et piégé par les soldats agents du service de renseignement de la République islamique d'Iran. Le ministère iranien des renseignements arrête de Farajullah Love de Jab, le chef du groupuscule de terroristes Mouvement Arabe de Lutte pour la Libération d'Ahvaz, principal auteur de l'attaque terroriste sanglante du 22 de septembre 2018 à Ahvaz, dans le sud de l'Iran. Ces dernières années, le chef du groupuscule de terroristes qui se nomme Harakat al-Nazal a planifié plusieurs autres opérations majeures à Téhéran et au Khuzestan et envisagé récemment de diriger une nouvelle opération terroriste, mais il a échoué dans cette tentative grâce à la vigilance des agents de renseignement iraniens. Le groupe terroriste est directement soutenu par les services de renseignement saoudiens et israéliens. Une installation pétrolière saoudienne a été visée au lendemain de l'avertissement du mouvement d'Ansar Allah. Un incendie s'est déclaré jeudi 12 novembre, non loin d'un terminal pétrolier à Jizan, dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite. Selon l'agence de presse officielle saoudienne, l'incendie a eu lieu suite à l'attaque de deux bateaux piégés appartenant aux Houthis visant la plateforme flottante d'une station de distribution de pétrole. Mercredi 11 novembre, le porte-parole des forces armées yéménites, Yahya Sari, avait averti l'Arabie saoudite quant aux prochaines attaques des forces yéménites contre les cibles à l'intérieur du sol saoudien. Nous allons certainement riposter pendant les jours à venir aux frappes continues de la coalition saoudienne au blocus du Yémen, à la fermeture des aéroports et des ports, avait déclaré le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yahya Sari. Alors qu'un convoi militaire russe a accompagné des forces armées de syriennes et patrouillé ce jeudi 12 décembre la route d'Israq-Sarvatal-Kama dans la province de Deraa, un engin explosif s'est déclenché sur leur passage, ne causant cependant que des dommages légers, selon la défense russe citée par l'agence d'information russe Sputnik. Sur la route d'un convoi militaire russe en Syrie, un engin s'est déclenché, a déclaré Alexandre Grinkovitch, directeur adjoint du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie. Un véhicule blindé de Tigre a été légèrement endommagé. Toutefois, aucun soldat n'a été blessé. Tous les équipements militaires et les soldats russes sont retournés en toute sécurité au site de déploiement. Le commandement du groupe russe en République arabe syrienne, en coopération avec les autorités de sécurité syrienne, mène une enquête sur l'incident, a déclaré Alexandre Grinkovitch. Même si aucun vaccin contre le Covid-19 n'a été encore qualifié par l'OMC comme nécessaire, le russe Sputnik V pourrait être porté sur la liste d'utilisation d'urgence de l'organisation si il est conforme à ses exigences, annonce le service de presse de l'instance. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, mettra le vaccin russe contre le coronavirus Sputnik V sur la liste des vaccins recommandés pour l'utilisation d'urgence s'il satisfaisait aux critères nécessaires à indiquer à Sputnik, le service de presse de l'organisation. L'OMC a constaté, l'Institut scientifique de recherche en technologie et microbiologie Gamaleya, qui a exprimé son intérêt pour la demande d'inscription du Sputnik V sur la liste des vaccins recommandés par l'OMC en cas d'urgence, et nous attendons avec intérêt les données sur le vaccin candidat Sputnik V. Si le produit soumis à l'évaluation satisfait aux critères de l'enregistrement, l'OMC publiera ouvertement les résultats, a déclaré le service de presse de l'OMC. Le Conseil de sécurité de l'ONU prolonge le mandat de sa mission en République centrafricaine. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution visant à prolonger le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine d'une année supplémentaire, soit jusqu'au 15 novembre 2021. En adoptant la résolution 2552, le Conseil de sécurité a décidé que la MUNISCA continuera à comprendre jusqu'à 11 650 militaires et 2 080 policiers et a rappelé de son intention d'exercer une surveillance constante sur ce nombre. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre journal d'information s'achève et merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous, on va vous proposer dans une poignée de secondes notre commentaire politique. La présence militaire de la Russie dans la région du Haut-Karabakh, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Selon le journal russe Izvestia, l'état-major général des forces armées russes a annoncé la mise en place de postes de maintien de la paix dans la région du Haut-Karabakh, dont la tâche est de veiller au respect du cessez-le-feu par les parties et préserver la sécurité des civils et les transports en transit dans la région. Les forces russes de maintien de la paix installeront 16 postes d'observation afin de contrôler l'application du cessez-le-feu entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie dans la région du Haut-Karabakh, a déclaré un non-responsable militaire russe. Ces postes seront placés le long de la ligne de contact au Karabakh et le long du corridor reliant cette région à l'Arménie, a rapporté l'agence de presse RIA Novosti en citant Sergei Routskoï, chef de la direction générale des opérations d'état-major des forces armées russes, et de poursuivre. Les soldats russes contrôleront les violations du cessez-le-feu, garantiront la circulation en toute sécurité des convois et cargaisons et empêcheront les actions illégales visant les civils. Selon ce responsable russe, l'usage d'avions de patrouille et de drones par des forces armées russes est envisageable pour assurer l'accomplissement des missions de maintien de la paix. Et dans le même temps, l'Organisation du traité de sécurité collective, OTSS, se félicite d'un cessez-le-feu dans la région du Haut-Karabakh, a déclaré le secrétaire général de cette organisation. Nous évaluons positive la cessation des hostilités dans la zone de conflit du Haut-Karabakh devenue possible après la signature le 9 novembre d'un accord par le président de la Russie, de l'Azerbaïdjan et de le premier ministre de l'Arménie. Nous saluons toutes les mesures pouvant conduire à la réinstauration de la paix dans la région et mettre fin aux effusions de sang. L'Organisation du traité de sécurité de collective a appelé à plusieurs reprises les parties en conflit à revenir au régime de cessez-le-feu et au règlement du conflit du Haut-Karabakh et exclusivement à travers les négociations pacifiques, toujours selon le président de cette organisation.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur cet accord, sur la fin de l'hostilité et de la guerre qui a été conclue récemment par en fait, le président azerbaïdjanais, arménien et russe. Cet accord a mis, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, un terme à cette guerre dans la région du Haut Karabakh, de la guerre qui opposait en fait la République d'Azerbaïdjan et l'Arménie. Et cet accord a été signé par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, le président russe de Vladimir Poutine et le premier ministre arménien. Du côté surtout de l'Azerbaïdjan, cet accord a suscité des scènes de liesse à Bakou et dans d'autres région du pays, mais du côté d'Erevan, c'était, si vous voulez, une déception. Des manifestations ont eu lieu, en fait, à Erevan, capitale d'Arménie, pour protester contre la signature de cet accord. Quelle est l'importance de cet accord? Quelle est la portée de cet accord conclu entre la Russie, la République d'Azerbaïdjan et la Russie? Nous allons en fait aborder cela dans le cadre de cette émission avec deux spécialistes des questions internationales. Avant de vous le présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un court reportage, on reviendra tout de suite après.
Silence radio à Ankara. Ces quelques 2000 soldats russes que Poutine a commencé à déployer dès le mardi 10 novembre à minuit le long de la ligne de contact dans le Haut-Karabakh, soit dans la stratégique localité de Lachin, avec leurs 90 véhicules blindés et 380 équipements militaires, alors qu'il quitte la Russie, cela fait sans doute écho à ses 3 bataillons blindés, ses dizaines de forces commando et ses 500 équipements militaires que l'Iran a placés ces 2 dernières semaines et à un rythme régulier sur ses frontières avec l'Arménie que contrôle désormais la République d'Azerbaïdjan. Au fait, cette trêve que Poutine a fait signer un peu à la Cosaque, au Sorosien Pachinian et à l'Otanien Aliyev sous les yeux ahuris d'Ankara qui s'apprêtait après la prise de Choucha d'aller droit vers Stepanakert, donne bien à penser que l'axe Russie-Résistance attendait son heure avant de réagir pour couper l'aile à l'élan caucasien du sultan et de ses soutiens israélo-américains. Le futur électoral US aidant, la Russie vient donc de s'emparer militairement du cœur battant du projet caucasien de l'axe US-israélien et ce suivant le terme de la trêve qu'Aliyev a qualifié de capitulation militaire de l'Arménie pour une durée de 5 ans. Cela veut dire que l'éventuel successeur démocrate de Trump, à qui les experts reconnaissent une mission, celle d'allumer la mèche des guerres croisées aux portes de l'Iran, de la Russie et de la Chine, se trouverait pour les 5 années à venir et de manière renouvelable année à année avec l'URSS russe. Pas brillant pour un sultan qui a dû se retirer ces 15 derniers jours sous l'effet conjugué des missiles Iskander russes et des missiles tactiques Fateh 110 iraniens de 3 des 50 postes d'observation. Que les mercenaires pro-Turquie occupés dans le nord-ouest syrien depuis 3 ans et où ils ont même créé un pool d'exportation de terroristes.
Merci infiniment d'avoir choisi cette émission, le débat consacré à cet accord conclu entre la République d'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Russie pour mettre fin à la guerre dans la région du Haut-Karabakh. Pour vous en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux spécialistes des questions internationales. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas, capitale syrienne, un juriste français spécialiste des questions internationales. Il s'agit de Maître Arnaud Develet. Monsieur Develet, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Oui, je bonjour à vous et bonjour à votre invité.
Et l'invité de l'émission, l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître de Volée, c'est un géopoliticien belge des questions internationales. Il s'agit de M. Luc Michel. Luc Michel, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et mon cordial salut à mon collègue Maître de Volée.
Et c'est un plaisir à partager, Luc Michel. Luc Michel, on va commencer avec vous, notre émission d'aujourd'hui. Première question, comment évaluez-vous cet accord signé entre la République d'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Russie au sujet de la région du Haut-Karabakh?
C'est une grande victoire de la Russie, appuyée par l'Iran. Et il faut voir comment les médias, non seulement les médias turcs, mais les médias occidentaux, sont chaos debout. La Russie a démontré un sens tactique, ce sont des joueurs d'échecs. Ils ont attendu le bon moment, ils ont attendu la bonne situation. De quoi s'agit-il ? La Turquie est éjectée du processus de paix, elle n'est plus sur le territoire. La grande ruée vers l'annihilation de la République du Nagorno-Karabakh, mais aussi la constitution d'un couloir touranien de la Caspienne jusque la Turquie, ce n'est plus à l'ordre du jour. L'armée russe est maintenant présente aussi bien sur le territoire arménien, ce qui est déjà le cas, mais sur le territoire azéri. Et bien entendu, derrière tout ça, les parrains occidentaux du processus de Minsk, États-Unis et France, sont éjectés de ce processus. C'est la Russie qui contrôle les choses. Et le principal, c'est que dans le Caucase, l'arrivée de l'OTAN via donc les Turcs est stoppée. Mais le coup va encore plus loin, puisque finalement, Poutine a réussi à mettre au pas deux régimes qui étaient revêches. L'Arménie, il faut le rappeler, c'est un régime qui est issu d'une révolution de couleur en 2018 et qui jouait un jeu, on peut dire, de s'asseoir entre deux chaises. Un jour, je souris aux Occidentaux et aux Israéliens. L'autre jour, je suis quand même membre d'une alliance, l'OTSC avec la Russie. Le pouvoir qui est à Yerevan, il a de graves problèmes. Moi, je pense qu'il ne va pas survivre à ce qui est une capitulation militaire, pas russe, mais arménienne. Et je pense donc qu'on n'est pas à l'abri d'un changement de régime. Bien entendu, c'est tout bénéfice pour Poutine, mais Poutine a également pris des gages sur le gouvernement azéri. On sait que les généraux azéris, depuis de nombreux jours, sont hostiles à l'arrivée des Turcs aux côtés du pays, tout simplement parce qu'ils sont chiites et ils voient arriver des djihadistes ou des kafkiris, comme vous les appelez, qui sont des extrémistes sunnites wahhabites, et donc ça passe très mal. Il y avait des bruits d'ailleurs de mécontentement des généraux. Ici, non seulement l'Azerbaïdjan ne pourra pas rejoindre l'OTAN, ce qui était le rêve du grand état-major de l'OTAN à Bruxelles, mais il y a maintenant des troupes russes sur le territoire azéri. Enfin, il y a une dernière chose qu'il faut dire, c'est que vous verrez de ci, de là, on considère dans la presse occidentale que l'Azerbaïdjan a remporté une victoire. Tout cela se base uniquement sur les déclarations du président Aliyev. Mais il y a quelque chose qui est à constater. En 2011, la Russie, déjà Poutine, avait proposé des négociations à Kazan et un plan donc de paix exactement identique à celui-ci. En 2011, Bakou avait dit que ce plan était inacceptable et correspondait à une défaite. C'est celui qui vient pourtant d'accepter. Donc la Russie, c'est tout bénéfice. Et pour votre pays, l'Iran, qui a appuyé militairement sur sa frontière la Russie, c'est également un grand succès. C'est un échec complet pour la Turquie.
Maître de Volée, votre lecture des faits, s'il vous plaît.
Oui, bah écoutez, j'aurais presque tendance à dire que je ne vois pas trop quoi rajouter à l'analyse de Luc Michel. Effectivement, il y a une analyse à faire au niveau régional et international et une analyse à faire au niveau local. Au niveau local, comme Luc Michel l'a souligné, le gouvernement arménien avait tendance à plutôt être pro-OTAN, pro-sorossien, ou en tout cas très ambigu sur son orientation en termes de politique étrangère. La temporisation et la gestion du conflit par Moscou a permis, quelque part politiquement, d'exposer les limitations de ce gouvernement, avec les conséquences qu'effectivement, au rythme où les choses vont, il semblerait que ce gouvernement ne va pas durer très longtemps. En termes de la situation régionale, effectivement, l'OTAN est stop et net dans son élan de pouvoir s'infiltrer dans le Caucase Sud et créer des foyers d'instabilité comme elle en a coutume à la frontière effectivement entre la Russie, l'Iran et accessoirement la Chine, et donc porter un coup à l'ensemble de ce qui pourrait ensuite être perçu comme cette route de la soie, hein. N'oublions pas ça en toile de fond. Et bien sûr, de toute manière, l'accord portant sur les 5 ans à venir, renouvelable, comme vous l'avez souligné, permet à la Russie la liberté de manœuvre de pouvoir prolonger le statu quo qui, ma foi, lui convient très bien. Donc c'est une opération vraiment très très bien réussie. Surtout éviter le piège de se retrouver pour la Russie empêtrée dans les accords signés d'assistance mutuelle signés avec l'Arménie. Donc limiter la présence russe, l'intervention russe au plateau. Et je dois avouer que c'est un coup de maître, un de plus pour Vladimir Poutine.
Mmh. Et de Luc Michel, vous l'avez dit que voilà, c'est une victoire pour la Russie, mais également pour l'Iran. S'agissant de la position adoptée par Téhéran, il y avait cette réaction du côté du ministère iranien des Affaires étrangères. L'Iran, qui salue en fait cet accord, espère en fait voir cet accord aboutir. L'Iran, qui insiste une fois de plus sur la nécessité de respecter la souveraineté et l'intégrité nationale et de ne pas changer en fait et les frontières officielles, de libérer les territoires occupés et de respecter la sécurité et les minorités, les droits, pardon, des minorités et du retrait de toutes les forces takfiristes. L'Iran insiste, Luc Michel, sur cette nécessité de ne pas permettre en fait aux terroristes takfiristes d'être actifs dans cette région du monde, Luc Michel.
Il y a une triple dimension. Tout d'abord, aussi bien Moscou que Téhéran ont évité ce qui était le piège géopolitique des Américains, des Israéliens et de la Turquie. De quoi s'agissait-il ? Vous savez que la Russie est membre, avec l'Arménie, d'une organisation militaire qu'on appelle la contre-OTAN, l'Organisation du traité de sécurité collective. Le but des Turcs, c'était d'amener les Russes à intervenir militairement, non pas pour établir la paix au Karabakh, mais d'établir aux côtés de l'Arménie. Premier piège. Second piège qui concernait votre pays, c'était d'obliger Téhéran, finalement, à se ranger du côté de l'Arménie et à donc contester un régime à Bakou qui est un régime chiite comme celui de Téhéran. Donc le double piège a été tout à fait éliminé. Il y avait enfin, il y a une troisième dimension qu'on néglige dedans, c'est un avertissement à ceux qui ont relancé les révolutions de couleur. Vous savez, les révolutions de couleur, c'est cette série de changements de régime qui ont lieu depuis 20 ans un peu partout, dans toutes les ex-républiques soviétiques, à Hong Kong, à Haïti, au Venezuela, dans ce qu'on a appelé le printemps africain, dans ce qu'on a appelé le printemps arabe, c'est la même chose. Depuis quelques semaines, Pompeo et Trump ont relancé des révolutions de couleur au Bélarus pour renverser Loukachenko, en Moldavie et au Kyrgyzstan. Il faut savoir que si Biden l'emportait, ce qu'on ne sait pas encore dire maintenant, ces révolutions de couleur ne s'arrêteront probablement pas, parce que les révolutions de couleur sont pilotées aux États-Unis non pas par la présidence, mais par des commissions bipartisanes du Congrès et du Sénat des États-Unis. Ici, en donnant un coup d'arrêt aux suites de la révolution de couleur de 2018 en Arménie, en donnant un coup d'arrêt à l'infiltration de l'OTAN en Azerbaïdjan, c'est un avertissement que Poutine vient de donner à ceux qui agissent au Moldavie, à ceux qui agissent au Bélarus et au Kyrgyzstan. Il y avait hier un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai et Poutine a donné un grand discours et il a explicitement dit ce que je viens de dire. Il a dit que trois révolutions de couleur avaient été relancées contre trois pays de l'Est européen et il a annoncé que la Russie ne resterait pas l'arme au pied pour regarder ces changements de régime se faire. Ça, c'est la dimension internationale de l'échec turc et atlantiste en Azerbaïdjan.
Et Maître de Volley, vous êtes à Damas, capitale syrienne. Et lorsqu'en fait cette guerre était en cours dans la région du Haut-Karabakh, il y avait des dépêches qui parvenaient de la région du Haut-Karabakh, également de la Syrie. Et des dépêches qui indiquaient que voilà, il y a des terroristes takfiristes qui sont redéployés du territoire syrien vers la région du Haut-Karabakh. Cela a suscité l'inquiétude, si vous voulez, des pays de la région, dont l'Iran, la Russie. Alors, c'est une victoire pour la Russie et l'Iran qui insistent sur la nécessité de respecter les frontières internationales. C'est également, comme l'a dit Maître de Volley, un échec pour ceux qui essayaient d'abuser de cette guerre, de ce conflit, pour, si vous voulez, renforcer la présence des terroristes dans la région, surtout en fait à proximité des frontières iraniennes. Alors, c'est un échec pour le régime israélien également, dont des fabrications étaient utilisées pendant la guerre du Haut-Karabakh, Maître de Volley.
Oui, oui, absolument. Ben, il n'est un secret pour personne que les Israéliens ont non seulement vendu un nombre assez important de systèmes d'armement à l'Azerbaïdjan, a investi beaucoup, et ce depuis plusieurs années, dans ce contexte afin d'y d'établir non seulement, bien sûr, des ventes d'armes, mais aussi une relation bilatérale qui leur permettrait d'avoir une présence sur le terrain. Cette présence sur le terrain incluait visiblement un centre d'écoute au nord de l'Iran. Donc cette situation est autrement bien dégoupillée, si je puis dire, pour l'Iran, dans le sens où l'influence israélienne maintenant sera de facto réduite à sa plus simple expression. Pour ce qui concerne l'exportation des takfiristes, effectivement, dans la région en question, le Haut-Karabakh, ce n'est que la dernière manifestation, de toute façon, d'une opération de sous-traitance que l'OTAN a coutume de faire, que ce soit avec les soi-disant moudjahidines du peuple, que ce soit avec les takfiristes recyclés, et un jour en Libye, et un jour en Syrie, et plus récemment dans la région du Caucase du Sud. Ça permet d'éteindre ce foyer et peut-être maintenant, à la faveur de la stabilisation de la région, on va peut-être pouvoir obtenir des informations beaucoup plus détaillées sur le nombre de ces combattants, leur identité et en fonction d'eux, savoir qui les payait et qui les a acheminés. Après tout, c'est un levier qui permettra peut-être aussi à Moscou et à Téhéran de rappeler les responsabilités d'autres États dans la fomentation de ces tentatives de déstabilisation.
Et Luc et Michel, la Russie est militairement présente en Syrie. Venez de faire allusion, si vous voulez, au cas de l'Afrique. On sait que la Russie a tissé des liens de très très importants, même sur le plan militaire, avec pas mal de pays africains également. Mais on ne va pas parler de l'Afrique et d'autres régions du monde. Revenons en fait à nos moutons et parlons de cette région du Haut-Karabakh. La Russie est militairement présente en Syrie, désormais militairement présente dans la région du Haut-Karabakh, parce que dans le cadre de cet accord de paix signé entre la République d'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Russie, il va y avoir en fait le déploiement des soldats russes, qualifiés de soldats de maintien de paix dans cette région. Que signifie, Luc Michel, la présence militaire de la Russie dans cette région, quand même névralgique et importante?
Elle est importante parce que, je le disais, maintenant l'armée russe est présente sur le territoire de l'Azerbaïdjan et ça va limiter tout risque d'adhésion de l'Azerbaïdjan à l'OTAN, ce qui est le but de la politique occidentale, aussi bien de l'Union européenne que de l'OTAN, d'ailleurs, depuis presque 20 ans. Il faut dire que les Turcs avaient un but. Il y avait déjà un front en Libye, il y avait un front en Syrie. C'était d'ouvrir un troisième front dans le Caucase. Et les Russes ont été un peu, pour employer une expression américaine, qui est inspiré de la défaite américaine dans la bataille d'Ardem en 1944, les Turcs ont été un pont trop loin. Ils n'ont pas compris que, contrairement à ce qui se passait en Libye ou en Syrie, on n'était pas loin des frontières de la Russie, mais ici qu'on était dans l'étranger proche russe, dans des ex-républiques soviétiques, que les Russes dans le Caucase sont historiquement et géopolitiquement, ils sont chez eux. C'est ce que les Turcs n'ont pas maîtrisé et c'est le grand coup de latte qu'ils prennent sur les doigts aujourd'hui. La présence militaire russe, elle s'est déployée immédiatement, en quelques heures, ce qui veut dire que les Russes étaient prêts, qu'ils ont acculé les Turcs et les Azéris dans un piège stratégique, en utilisant la défaite arménienne, mais également c'est une présence militaire avec des missiles, avec des blindés. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. La Turquie a échoué en ne comprenant pas qu'en allant contester Moscou dans ce qu'on pourrait appeler, pour employer une expression française, le précaré russe dans le Caucase, les choses n'allaient pas se passer comme en Syrie ou en Libye.
Merci.
Maintenant, le rôle, si vous permettez, en une phrase, le rôle d'interface de la Turquie dans la distribution des terroristes depuis 10 ans, ils ont amené les terroristes contre Kadhafi en Libye en 2011, fin 2011, ils les ont ramenés en Syrie contre Assad, et maintenant ils sont en train de les distribuer de nouveau en Libye contre Haftar et au Nagorno-Karabakh. Et ça a des conclusions en Afrique dont vous parliez en un mot, c'est que la Turquie, grâce à son arrivée avec du terrorisme en Libye, elle est en train de se répandre en fratricide. Il y a maintenant un groupe terroriste qui s'appelle Al-Nusra, ce n'est pas un hasard, qui se trouve sur la frontière nord du Mali. Il y a des accords militaires de la Turquie avec le Niger, ce qui est une folie. Il y a une infiltration des groupes terroristes, mais aussi de la diplomatie turque un peu partout dans l'Afrique noire. Vous avez peut-être vu qu'il y a un ancien président malien qui est mort hier. Il était hospitalisé, ce n'est pas un hasard, en Turquie. Donc les apprentis sorciers de l'OTAN sont en train d'organiser une nouvelle vague terroriste avec les Turcs depuis la Libye.
Et Luc Michel, géopoliticien belge des questions internationales, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. Mes vifs remerciements vont également à Maître Arnaud Develet, juriste français spécialiste des questions internationales, qui a été avec moi pour cette émission depuis Damas. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci infiniment pour votre fidélité à Presse TV français. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.
N'hésitez pas à suivre nos émissions sur notre site http://parstoday.com/fr. Pars Today est actif essentiellement sur la toile et les réseaux sociaux, mais il diffuse son contenu en ondes courtes ou encore via des applications mobiles. les toutes dernières évolutions politiques au Moyen-Orient, l'euro axial qui joue l'Iran en qualité d'une puissance régionale et pays à la fois sûr et prospère sont largement traités à travers les articles, les émissions présentes sur le site Pars Today, ce qui en amplifie l'importance dans la sphère médiatique régionale. Le service français de Pars Today utilise divers médias pour présenter ses productions politiques, culturelles et religieuses. Son objectif n'est que de permettre aux internautes de voir plus clair dans un monde où les médias mainstream manipulent l'opinion. Les locuteurs français pourront suivre l'actualité iranienne, moyen-orientale et africaine et francophone sur Pars Today à l'adresse suivante http://parstoday.com/fr.
Dans son tout récent discours prononcé à l'occasion de la commémoration de la journée du martyr du Hezbollah, célébrée le 11 novembre de chaque année, le secrétaire général du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, aborde le mascarade électoral aux États-Unis et sa portée au Moyen-Orient. Une confrontation entre l'Amérique en perte de vitesse et l'axe de la résistance n'est pas à écarter. Les familles des martyrs représentent notre gloire et notre dignité. Nous leur exprimons notre amour et notre appréciation. Nous sommes appelés à poursuivre le chemin des martyrs par la patience, le travail et la fidélité en vue de réaliser les victoires ultimes. Dans le volet politique, je voudrais parler de la délimitation des frontières au sud du Liban. À la veille de la libération en 2000, j'avais clairement dit que la résistance ne discute jamais de la délimitation des frontières terrestres et maritimes, soit-elle. C'est la prérogative des autorités et non pas la responsabilité de la résistance. Le devoir de la résistance est de protéger les territoires libanais en collaboration avec l'armée et de libérer les terres occupées. La question des pourparlers actuels ne relève pas de nos responsabilités. La résistance n'est pas intervenue au passé lorsque les territoires frontaliers ont été délimités et ne le fera pas aujourd'hui. La délimitation des frontières maritimes a gagné de l'importance après les informations faisant état de ressources pétrolières et gazeuses. Ceci a poussé l'État libanais à réclamer la délimitation des frontières pour pouvoir commencer le forage. Le chef du Parlement, Nabih Berri, avait négocié et débattu de cette affaire depuis plus de 10 ans en vue de clarifier les zones maritimes libanaises. Nous n'avons pas de problème de discuter les limites de nos frontières avec l'ennemi dans le cadre de pourparlers purement techniques, loin de toute visée politique. Récemment, nous avons assisté à une campagne diplomatique américaine qui a affiché son intérêt pour la délimitation des frontières. L'annonce par le chef du Parlement d'un accord cadre pour les négociations avec l'ennemi au sujet des frontières maritimes a soulevé une vague d'analyses adverses visant à relier cette décision au pourparlers de normalisation des pays du Golfe Persique avec l'ennemi. Pis encore, d'aucuns ont prétendu que cette annonce faite par le président Nabih Berri s'inscrit dans le cadre de pourparlers irano-américains, alors que tout ce qui a été n'est qu'illusion et tentative de jeter de la poudre aux yeux pour justifier les pourparlers de paix avec l'ennemi. Ce ne sont que mensonges et de fausses allégations. Notre position envers Israël est claire. C'est une question dogmatique. L'existence d'Israël, formée de gangs terroristes usurpateurs de la terre de la Palestine, tel est notre point de vue inchangé. Notre position sur les négociations de paix est connue et fixe. Nous avons la totale confiance dans la direction du président Michel Aoun pour restituer les droits du Liban dans ce dossier de pourparlers. Cette question doit être claire. Diverger sur certains détails est normal et légitime. Nous n'étions pas d'accord d'inclure de civils dans la délégation libanaise qui sera chargée de négocier, et ce pour couper la voie aux tentatives d'exploiter politiquement et médiatiquement cette affaire. Sachez que le communiqué conjoint du Hezbollah et du mouvement Hamal a protégé la délégation libanaise aux négociations. Nous savons que cette délégation suit littéralement les prescriptions du chef de l'État. L'objectif est de protéger les droits du Liban et tout le monde doit savoir que nous sommes dans une posture de force. Le Liban a besoin d'exploiter ses ressources pétrolières. L'ennemi sait bien que le Liban est capable de restituer ses droits. Nous avons des droits, nous sommes forts et nous devons récupérer nos droits. Deuxièmement, la question des manœuvres militaires d'envergure israélienne. Elles ont eu lieu dans la Galilée et dans le Golan. En 2017, une manœuvre similaire a eu lieu. Beaucoup d'analystes simultanés ont fait état d'une possible action militaire sioniste contre le Liban et la Syrie. Je voudrais commenter cette affaire. Primons, les Israéliens ont simulé une bataille contre des groupes de la résistance islamique qui vont s'infiltrer dans les colonies du Nord. Les manœuvres se basaient sur le combat dans la Galilée sans faire d'incursion dans les territoires libanais. Ceci signifie que pour la première fois, les Israéliens craignaient d'une offensive de la résistance. L'armée sioniste est passée de l'état de l'offensif à l'état défensif. La vision de l'ennemi a changé. Il craint une agression contre le Liban après avoir mené des invasions d'envergure par le passé. Aujourd'hui, l'ennemi ne cherche plus à lancer des attaques au sud du Liban, ce qui nous rassure que nos comptes sont corrects au sujet de l'équation de force. Secondo, lors de cette manœuvre, le chef d'état-major israélien a déclaré que même si un millier de soldats sera atteint du coronavirus, les opérations auront lieu. Sur ce point, nous évoquons la crise de confiance et le manque de volonté dans les forces terrestres israéliennes. Donc, cette manœuvre visait à remonter le moral entamé des soldats. Lors de toute prochaine guerre, l'armée de l'air sera incapable de trancher la bataille, tout comme l'armée maritime. Toutes les guerres qui ont eu lieu dans la région, dont dernièrement la guerre au Yémen, ont démontré ce fait. Et tertieux, même avant le début des manœuvres, la résistance islamique était en état d'alerte maximale et ceci est parvenu aux Israéliens. Nous avons adressé un message à l'ennemi comme quoi nous sommes prêts à riposter immédiatement à toute attaque militaire. La direction syrienne était aussi en état d'alerte. Je passe au dossier des élections américaines. Tout le monde a suivi les élections US qui auront des effets sur le monde entier. Les discours électoraux et les campagnes électorales ont présenté une image sur le régime politique aux États-Unis. Je vous appelle à vous arrêter aux chiffres et aux faits parce que certains nous appellent à prendre les États-Unis comme modèle à suivre et un symbole de démocratie. Par exemple, la situation économique, les dettes du budget, la situation vitale de dizaines de milliers d'Américains, les gens qui vivent dans des tentes sans sécurité sociale, le grand chiffre de personnes atteintes du coronavirus, de maladies chroniques et neurologiques, les crimes et les délits, et le taux de corruption dans les instances de l'État. Voici l'Amérique de la liberté, de la démocratie et du développement. Il sera bon d'étudier en profondeur ces chiffres qui reflètent l'ampleur des crises dans lesquelles vit la population. Regardons cette démocratie US lorsque le perdant refuse d'admettre les résultats des élections. Dès le premier jour du décompte des voix, Trump a commencé à crier pour demander l'arrêt du décompte et pour lancer des allégations sur des fraudes présumées. Donc, cessez de nous professer le modèle démocratique US. Pour ce qui est de la nouvelle administration US, et surtout dans notre région, la priorité est aux intérêts d'Israël. Qui que ce soit, le nouveau président, son objectif premier est de satisfaire Israël. C'est une constante première dans la politique US. Donc, il est illusoire d'espérer grand-chose des directions US. Peut-être on assistera à des changements moindres dans les détails de la politique US. Certes, la direction de Trump était l'un des pires gouvernements de l'histoire des États-Unis. Il était le plus arrogant, criminel, terroriste, despote. Pendant 4 ans, il a placé le monde au bord de la guerre, en Corée, en Chine, au Venezuela, à Cuba, en Syrie. Il a imposé des sanctions et des embargos sur les peuples, comme en Palestine, en Syrie, en Iran. Il a offert un soutien total à l'offensive saoudienne au Yémen. À vrai dire, il a montré le véritable visage de la direction US. Mais malgré tout, il a échoué. Quel est le sort de l'accord du siècle? Trump va partir, Netanyahu est dans sa pire situation et Mohamed Ben Salman est le plus inquiet pour son sort après les engagements de Joe Biden de cesser le soutien US à la guerre saoudienne au Yémen et de punir Ben Salman pour l'assassinat de Khashoggi. Trump a échoué partout dans le monde. Sur le plan personnel, je suis heureux pour la chute humiliante de Trump. Certes, ceux qui viendront ne seront pas meilleurs, mais au moins, nous avons le droit d'afficher notre bonheur un peu. C'est lui qui a commis le crime du siècle en assassinant le général Qassem Soleimani. Sur le plan pratique et en raison de ce gouvernement US arrogant, les guerres étaient très probables. Les possibilités des guerres diminueront avec la nouvelle administration. Reste ces 2 mois à venir. D'aucuns affichent leurs craintes quant à une possible guerre suite à la démission de haut commandant du ministère de la Défense US. Peut-être la démission du ministre est liée au refus de déployer l'armée dans les rues US. Ou Trump compte utiliser l'armée US sur le plan régional. Donc, on ne peut pas trancher. Dans les pays de l'axe de la résistance, direction et peuple, il faut rester vigilant et prêt à repousser toute offensive belliqueuse US possible.